n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme de votre émission d'actualité locale, rencontre avec Rachel Galerme, accompagnante du deuil. Elle est venue en conférence à Étré pour parler de la résilience après la mort d'un proche. Reportage à l'abbaye Notre-Dame-des-Dombes pour découvrir son nouveau verger. Il s'inspire de la permaculture. Et votre actualité en bref, avec une sélection des sorties dans l'Ain pour la Toussaint.
Bourg, en bref.
Mardi 18 octobre, c'était la grève générale dans toute la France. À Bourg-en-Bresse, ils étaient plusieurs centaines dans les rues pour cette mobilisation intersyndicale. Nos stagiaires Alvin et Nolan sont allés à leur rencontre.
Pourquoi vous manifestez aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on manifeste parce que l'inflation est telle que nous avons du mal à boucler les fins de mois et nos salaires ne suivent pas.
Concrètement, notre direction proposait 3,2% d'augmentation. Et donc ce qu'on réclame, nous, c'est un minima 5% d'augmentation.
Bah aujourd'hui, c'est pour les salaires, c'est pour les services publics, c'est contre les lois qui sont en train de programmer à l'Assemblée nationale ou enfin au gouvernement directement avec le 49.3.
C'est plus contre les mesures prises au niveau des retraites.
Pour lutter contre les inégalités.
Quelle décision pourrait vous permettre d'arrêter la mobilisation, d'arrêter la manifestation ?
L'indexation des salaires sur l'inflation, c'est-à-dire que nos salaires devraient augmenter en même temps que l'inflation.
Bah, l'augmentation de salaire, tout simplement.
Il ne suffirait pas d'une décision. Il faudra un changement beaucoup plus global, holistique, que ce soit plus, que le gouvernement soit un peu plus démocratique, un peu moins, moins descendant.
Bah, déjà, les revendications, elles sont claires. C'est la hausse des salaires. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout.
Avec, on prenne un petit peu en considération les salariés et qu'on écoute un peu ce qu'ils ont envie de dire.
C'est que nos directions proposent... Actuellement, ils ont proposé 80 euros brut en moyenne par salarié. Et donc concrètement, nous, on demande 200 euros bruts d'augmentation par mois.
Dans toute la France, ils étaient environ 200 000 à manifester pour la hausse des salaires, le droit de grève, contre l'utilisation du 49.3 et la réforme des retraites notamment. Des revendications qui ne semblent pas être entendues par le gouvernement. Son premier recours au 49.3 a déjà eu lieu pour la première partie de la loi finances, c'était mercredi dernier. Pour rappel, le 49.3 est un article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer une loi en force sans avoir besoin de la faire voter par l'Assemblée. Il a été utilisé environ 90 fois sous la Ve République. Face au 49.3, les députés peuvent cependant voter une motion de censure contre le gouvernement. Et s'ils ont la majorité absolue, le gouvernement est dissous.
À vous, les Burgiens.
Aujourd'hui avec nous en studio, Alvin, stagiaire de 3e. Bonjour Alvin.
Bonjour.
Alors tu nous as sélectionné des sorties à faire dans l'Ain pour ces vacances.
Je vais vous présenter 3 événements pour ne pas vous ennuyer pendant les vacances de la Toussaint. Pour commencer, à Bourg-en-Bresse, il sera possible de faire une visite spéciale de l'apothicairerie. C'est organisé par Bourg-en-Bresse Destination. L'occasion de découvrir la manière dont on se soignait au Moyen-Âge. Les enfants pourront même manipuler des substances. C'est le mercredi 2 novembre à 15h. 8 euros pour un adulte et un enfant. Cette activité se situe devant la chapelle de l'Hôtel Dieu, 47 boulevard de Brou.
Venez déguiser à l'Agora de Perona.
Le 31 octobre, c'est Halloween. Pour l'occasion, des activités seront organisées par l'Agora. Vous pourrez vous faire maquiller gratuitement du 17 à 18h. Écouter des contes effrayants à partir de 19h30 ou encore partager de la soupe à la citrouille à 20h30. Tout ça est gratuit. D'autres activités seront payantes et sur inscription jusqu'au 29 octobre. Les déguisements sont encouragés. Rendez-vous à l'Agora de Perona, au 86 rue de la Poste.
Et aux soirées Bonnet, frissons garantis.
Au programme, découverte des faces sombres de la soirée Bonnet, avec notamment une visite des souterrains de l'usine. C'est le samedi 29 et le dimanche 30 octobre, de 18h à 23h. Il y aura un départ toutes les 30 minutes pour cette soirée, les soirées hantées. Cette activité est interdite aux moins de 12 ans et coûte 15 euros par personne. Rendez-vous au Soirée Bonnet à Jugerieux vers Cerdon.
Et voilà plein d'idées pour rythmer vos vacances. Merci Alvin.
Merci à vous.
L'invité de Radio B.
Début novembre, comme tous les ans, on célèbre les morts, au cimetière ou en famille, une période pas toujours évidente. Rachel Galerme est accompagnante du deuil, elle était en conférence à Étré, c'est Véronique, habitante de la commune, qui l'a invitée. Elle a perdu son mari récemment et Rachel l'a aidée. Elles sont venues toutes les deux dans le studio de Radio B pour parler de la résilience après la mort d'un proche. Rachel nous résume les sujets abordés pendant cette conférence.
J'ai partagé cinq points qui me semblent importants pour mieux traverser le deuil, pas pour moins souffrir, parce que la souffrance, elle est incontournable. En fait, on va être obligé de traverser cette souffrance. Ça fait partie du processus de deuil, mais en tout cas, avoir un deuil un peu plus harmonieux. Mon premier point, c'était vraiment de pouvoir expliquer le processus de deuil, ce qu'est le processus de deuil, qui est un processus naturel qui se déclenche vraiment dans notre corps, dans notre mental, naturellement. Le deuxième point que j'ai évoqué, c'était de pouvoir proposer aux gens d'accompagner leur corps. Parce que souvent, on me dit, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi ? Je suis tellement mal, je suis dans une souffrance tellement extrême. Comment je peux aller mieux ? Voilà, de la respiration. Ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être aller se faire masser, de l'acupuncture, plein de choses autour de ce corps-là, d'en prendre soin, de reprendre une activité physique, même si les premiers mois, on me dit « mais c'est terrible parce que j'ai pas l'énergie pour ». Donc des fois, il faut un peu ne serait-ce qu'aller marcher à la lumière du jour. On voit que sur le long terme, c'est vraiment bénéfique. On a abordé la question du mental, de comment apaiser le mental, de pouvoir mettre en place des rituels du deuil. Le deuil, c'est vraiment une perte de repères, c'est une vraie crise identitaire. Donc de pouvoir remettre des repères qui vont nous aider à transformer ce lien extérieur qu'on avait avec la personne, que ce soit son enfant, son parent, son ami qu'on a perdu peut-être, hein, ou son conjoint, ce lien extérieur qui se coupe, de pouvoir transformer ce lien extérieur en un lien intérieur. Et puis, un autre point, c'était de pouvoir vraiment expérimenter aussi des nouvelles choses. J'ai entendu des personnes dire, non, je ne peux pas partir en vacances parce que j'ai perdu mon conjoint en début d'année. Donc, c'est aussi petit à petit se reconnecter à des toutes petites choses qui vont nous faire du bien, qui vont nous apaiser. On est en pleine transformation. Et il y a peut-être des choses qui avant nous plaisait pas trop, on sait plus vraiment qui on est. Et le dernier point sur lequel moi, c'est le dernier, mais c'est un point qui me tient à cœur, c'est de savoir s'entourer. C'est pas évident parce qu'effectivement, les personnes témoignent beaucoup du fait que la mort, ça fait peur. Les gens ne savent pas forcément comment parler, comment soutenir une personne qui a perdu un proche. Donc de pouvoir savoir s'entourer, d'aller vers les bonnes personnes, de pouvoir repérer autour de nous, en fait, les personnes qui vont être là pour des choses très matérielles et puis celles qui vont être là pour... qui ont une compétence au niveau émotionnel. Elle a vécu des épreuves, elle a peut-être vécu un deuil et elle en est passée par là. Ou alors, elle a vécu des épreuves de la vie, la maladie, des difficultés financières, enfin, des épreuves de vie. Et ça va rapprocher donc, les groupes de personnes endeuillées. C'est quelque chose de vraiment hyper, hyper aidant.
Véronique, c'est grâce à vous que Rachel est venue à Étré, donc pour parler du deuil devant plusieurs personnes. Donc vous, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et pourquoi vous avez contacté Rachel ?
Moi, j'ai perdu mon mari en avril 2021 d'un cancer. Donc je l'ai accompagné quelques mois dans ce cancer qui était très invasif. Donc il y avait déjà cette période très éprouvante. Ensuite, le premier été, bien sûr, j'étais plutôt tout en bas. Et j'ai cherché ce qui existait autour du deuil, parce que j'avais aucune info, je savais pas trop, j'avais jamais entendu parler. Et j'ai trouvé Rachel sur les réseaux sociaux, sur des lives qu'elle faisait, sur Facebook, sur YouTube. Et j'ai suivi ça pendant plusieurs mois et j'ai cheminé avec ça et j'ai trouvé quelqu'un qui parlait de choses très naturellement mais d'une manière très positive, très avec plein d'espoir. Donc je me suis lancée. Je me suis lancée et j'ai pris un accompagnement de 6 mois avec Rachel, où j'ai fait de la sophrologie un mercredi sur deux. Le mercredi suivant, c'était un appel de groupe, donc avec d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi, mais bien sûr avec des âges et des situations différentes. Mais tout de suite, j'ai ressenti le bien-être de plus être seule. Vraiment, de ne pas être jugée, de beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage, de soutien, que du bonheur, quoi. Enfin, c'est ce que j'avais besoin vraiment à ce moment-là, parce que bon, même si on est entouré par sa famille, ses amis, c'est pas la même chose. On se sent pas compris pareil. On n'a pas la force de parler forcément. Alors que là, ces femmes que je ne connaissais pas, que je voyais que sur un écran, tout de suite, la confiance était là. On se partageait les émotions, on pleurait, c'est sûr. On rigolait. Ça a été tout de suite un grand soutien et c'est devenu une deuxième famille. On se fait des week-ends. Là, ce week-end, ça va être Paris. On se retrouve une vingtaine. Il y en a plus de la moitié que je ne connais pas. Et je n'ai pas peur parce que j'ai déjà expérimenté ça au mois de mai en Sologne avec Rachel, sur 4 jours. C'était juste magique, très, très à l'aise et vraiment en repartant avec la banane, une chaîne humaine, j'avais vraiment, vraiment à cœur de faire connaître ce qui existe sur le deuil. Par rapport à ce que propose Rachel, en tous les cas, que j'ai connu moi, c'est le fait d'être en chez soi, de pouvoir faire ça chez soi, surtout au début du deuil où c'est très épuisant, très fatigant, et du coup, de ne pas avoir à reprendre la voiture pour aller dans un lieu, là, on est un peu dans son cocon, dans son univers, mais en même temps, on bosse, on fait quelque chose pour nous. Et ça, c'est une proposition vraiment qui pour moi, a été fantastique.
Dernière question à vous deux. Donc, vu qu'on est en période de Toussaint, il y a beaucoup de gens qui vont repenser à des personnes qu'ils ont perdues. Est-ce que vous auriez un ou deux conseils chacune à dire à nos auditeurs et nos auditrices? Donc, Rachel.
Moi, je trouve que ces dates comme ça, on parle de la Toussaint, ça peut être Noël, ça se prépare en fait. Vraiment. Parce que souvent, la réaction qu'on a, c'est « je ne veux pas que la date arrive ». Je voudrais me réveiller après cette date, après la Toussaint, ça va être encore terrible, aller fleurir la tombe, et puis peut-être faire des réunions de famille et tout, c'est lourd. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place ? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que cette période, elle soit un peu plus douce et en même temps que tu puisses, si tu as envie, rendre hommage à celui ou celle qui n'est plus là ? Qu'est-ce qui est acceptable ? Donc, c'est sûr qu'on réfléchit ensemble. Moi, j'ai quelques idées. Par exemple, au moment où on en a parlé hier soir à la conférence, et ça peut être de se dire, ce jour-là, peut-être s'il y a un repas de famille à la Toussaint, tout le monde va penser à celui ou celle qui n'est plus là. Mais personne ne va oser en parler. Parce que l'entourage, en fait, souvent dit, je ne vais pas en parler parce que ça va lui rappeler l'absence. Mais ça peut être juste prendre son verre et dire, je pense à celui qui n'est plus là. J'ai envie de trinquer à sa santé. C'est sûr qu'il y aura de l'émotion. Il va y avoir des larmes, mais c'est OK, c'est pas grave en fait. On va être dans l'émotion quelques minutes, on va peut-être pleurer. Souvent, on a peur de ça, on a peur des larmes. Mais c'est salvateur et ça fait du bien à tout le monde. Donc, on va se prendre dans les bras, on va peut-être même dire, s'il avait été là, il aurait dit... on va raconter une anecdote, on va trinquer. Nous, on aura rendu hommage à la personne, on aura un peu fait baisser un peu la pression au niveau émotionnel, et puis après, on va donner le feu vert en disant maintenant, on mange un petit truc, on y va. Ça peut être un petit tips qui peut aider et qui fera du bien à tout le monde. Une idée parmi nombreuses, hein. C'est court.
Et donc, Véronique, déjà, est-ce que vous, vous redoutez la Toussaint ou c'est peut-être pas cette date-là que vous redoutez le plus ?
Non, c'est pas forcément cette date-là parce que je me dis que la Toussaint, certes, c'est une date sur un calendrier où on a voulu faire hommage aux gens qui sont partis. Mais moi, je me dis que quand j'ai envie de, d'honorer et de rendre hommage à mon mari Fabrice, je peux le faire à tout moment. C'est très rassurant aussi pour moi. Après, pour la Toussaint, j'avouerai que je n'ai pas forcément encore réfléchi. Mais des idées que j'ai, oui, j'en ai beaucoup aussi. Alors, ça peut être effectivement allumer une bugie ce jour-là, près de la photo de Fabrice, ou notamment à la maison, avec mes enfants, on a été tous les cinq choisir un olivier pour ces un an de décès. Et ce qui a été très apaisant ce jour-là, parce qu'on l'a choisi ensemble, parce que du coup, on a parlé de Fabrice. Etc., que ça lui ressemblait, que cet arbre avait six branches, donc c'était nous. Après, c'est un copain, un de mes fils qui est venu le planter et on a vu cette envie de rendre hommage pour lui aussi et c'était très touchant. Et là, du coup, avec cet arbre qui est pour nous vraiment la représentation de Fabrice, bah ça peut être à la Toussaint, ça peut être mettre des lumières dessus, mettre des bougies au pied de l'arbre, ça peut être, en ce moment je réfléchis, ça peut être j'ai envie de me lancer dans de la peinture de gros galets avec ce qui va me venir émotionnellement, qui pour moi représentera notre famille, Fabrice, enfin voilà. Ça peut être une balade, faire une balade ce jour-là, une balade qu'on aimait bien à faire ensemble. Ça peut être, réunir de la famille, réunir des amis. Il y a plein de rituels qu'on peut mettre en place et qui apaisent. Ouais.
C'était Rachel Galerme, accompagnante du deuil, et Véronique qui a suivi son accompagnement. Et pour résumer ses conseils, Rachel Galerme a écrit le livre « Revivre après lui » pour aider les femmes qui ont perdu leur conjoint. Vous pouvez le retrouver sur son site rachelgalerme.com. À Bourg-en-Bresse, à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté, des rencontres sont organisées pour parler du deuil les samedis matins à 10h, une fois par mois, et c'est organisé par l'association Couple et Famille. Le prochain a lieu le 19 novembre.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 120 ans.
En reportage avec Radio B.
L'abbaye Notre-Dame des Dombes, c'est un beau monument aux briques rouges au milieu de la verdure et des étangs à quelques minutes de Villars-les-Dombes. Il est animé par la communauté du Chemin Neuf, une communauté catholique née en 1973 à Lyon. Elle est présente aussi dans d'autres lieux en France. Des religieux y vivent à l'année, seuls ou en famille, et elle accueille aussi des groupes de passage. Sur place, il y a une ferme avec un atelier pour faire du fromage, mais aussi un verger qui date des années 80. Des cueillettes de pommes ouvertes au public sont organisées tous les ans, en septembre et en octobre. Ces pommes sont aussi travaillées pour en faire des jus, des pâtes de fruits ou de la gelée. Pour ce premier épisode sur l'abbaye Notre-Dame des Dombes, on découvre le nouveau verger situé en dehors de l'abbaye, juste à côté du parking des visiteurs. C'est un verger un peu particulier qui s'inspire de la permaculture. Frère Benjamin s'en occupe, il est là depuis un an et c'est un passionné des arbres et des plantes. Et il a même fait des études de paysagiste avant d'entrer dans l'église.
Voilà. Bienvenue dans le nouveau verger qui a été mis en place en 2020, sur un terrain qui autrefois en fait était un terrain qui l'est toujours, qui est très humide, mais qui autrefois il devait y avoir certainement des étangs par ici. Donc ça a été comblé. Donc on travaille sur une terre qui est plutôt hydromorphe, donc c'est-à-dire que sous nos pieds en fait dès qu'il pleut durant l'hiver surtout, dès qu'il y a pas mal d'eau, on tombe sur l'eau à quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres. Donc on a pu réaliser ce verger. Avant de le réaliser, on a préparé la terre. En amont, on y a mis de la chaux, on a chaulé la terre pour casser un peu l'argile, faire floculer l'argile, donc aérer le sol. On y a mis des amendements, fumier de vache notamment. et puis des engrais verts. Donc c'était un moyen à la fois de nourrir la terre et de la préparer avec un labour. On a aéré le sol aussi pour préparer des sortes de, je dirais, des planches, voire même des buttes pour pouvoir y planter les arbres qui sont butés, étant donné que le sol est humide. Ce verger-là, en fait, s'inspire d'un Canadien, Stéphane Sopkovac, qui a mis en place ce verger au Canada. L'axe agroforesterie, permaculture, ce tournant-là nous intéresse pas mal. Et puis l'aspect expérimental, innovant aussi, qui nous parle pas mal. Donc on a voulu essayer de mettre en place un nouveau type de verger, qui est plus une monoculture comme l'ancien verger qu'on avait tout à l'heure, mais plutôt une polyculture, donc plusieurs cultures, avec des arbres fruitiers de différentes espèces et variétés. Donc on a des pommiers pour une majorité, bien 600 pommiers sur place. On a aussi des fixateurs d'azote. Un tiers des arbres, ce sont des fixateurs d'azote, c'est-à-dire à peu près 300 arbres, qui eux fixent l'azote de l'air, qui captent l'azote de l'air et la fixent dans le sol, en espérant, en fait, dans l'idée, c'est que ça permette la croissance des autres arbres autour.
Fixateur d'azote, c'est quelle variété qu'on connaît peut-être d'arbres ?
Alors une bien connue, une variété d'ornement, c'est l'arbre de Judée. Et après, on a de l'aulne glutineux. Et puis on a le reste des arbres, ce sont des poires, des pêches, des prunes, avec différentes variétés de celles-ci. Donc ce verger-là, il est entouré par des haies bocagères, une première haie brise-vent et une seconde haie petit fruitier. La haie petit fruitier, tous les arbres en fait sont comestibles. C'est aussi des arbres pollinisateurs qui servent à attirer les abeilles pour que les autres arbres soient pollinisés autour. Ça sert aussi de niche écologique pour les oiseaux. Et puis aussi, ça a du charme et c'est l'aspect du beau aussi est très important aussi. Dans ce verger-là aussi. On peut dire que sur chaque rangée, il y a à peu près 25 rangées qui font chacune 150 mètres linéaires. Et chaque rangée, en fait, fonctionne par décades. On les appelle les rangées épicerie. C'est-à-dire qu'on a une rangée où on va pouvoir récolter, par exemple, début septembre, voire mi-septembre, une seconde, ça va être 10 jours plus tard, et la troisième, par décade. Ces rangées-là, en fait, ont été plantées par trio d'arbres. Donc, souvent, on retrouve, c'est pas tout le temps le cas, mais presque, on retrouve un pommier, un fixateur d'azote, et une poire, pêche ou prune. Et puis, tout ça s'ordonne autour d'une mare, qui est au cœur de ce verger. La mare qui, elle, accueille de la biodiversité. L'objectif aussi, c'était de pouvoir favoriser la biodiversité. Et donc, on a des canards qui viennent. Il y a du poisson qui vient naturellement par les oiseaux, qui emmène le poisson. Et puis, ça crée un microclimat aussi. Ça régule la température au cœur du verger. L'idée de ces allées plus larges, c'est de pouvoir à la fois qu'il y ait plus de soleil qui puisse rentrer à l'intérieur du verger, mais aussi peut-être que par la suite, on puisse, là, cette année, l'expériment qui va être fait, c'est de planter de la pomme de terre entre les rangées. Sur les rangées elles-mêmes, donc on a espacé un peu plus les arbres pour pouvoir y mettre des courges, de la rhubarbe, des artichauts, avoir des choses qui sont plus vivaces dans le temps, qui durent plus longtemps, dont l'entretien demande un peu moins aussi. Dans l'idée de pouvoir par la suite aussi peut-être, pour le moment c'est à titre d'information et d'expérimentation, donc peut-être par la suite cette idée de pouvoir en faire une autocueillette mais plus large. Pour le moment c'est beaucoup des expériments, on va peut-être aussi essayer d'intégrer les moutons aussi, voir à partir du moment de l'automne quand les feuilles vont tomber, essayer de voir comment ils se comportent dans le verger. On a envie d'essayer de faire plusieurs expérimentations, voir comment ça va fonctionner. Moi, j'aime bien prendre ce verger-là comme une image prophétique aussi, une image pour l'Église. Et en parlant des deux vergers, en fait, tout à l'heure, nous étions dans l'ancien verger, et là, donc, le nouveau verger. Donc, l'ancien verger, en fait, c'est un verger, en fait, qui se meurt progressivement. C'est pour cela qu'on a, réalisé le nouveau verger. Progressivement, voilà, on sent qu'il y a des arbres qui tombent. Tout est en train de mourir. Et donc, c'est comme un peu un pan de l'église. Un pan de l'église qui est en train de mourir et qui fait du bruit aussi, c'est vrai. On a un pan d'église, c'est-à-dire des monastères qui ferment par manque de vocation, des églises de campagne aussi qui ferment leurs portes. Et puis, il y a un nouveau verger qui lui pousse dans le silence. L'ancien verger, il était à l'intérieur de la clôture, donc à l'intérieur de l'abbaye. Et ce nouveau verger est à l'extérieur, donc aux périphéries. C'est comme un appel à l'église, comme le pape François le rappelle, comme un appel à l'église d'être au cœur du monde. Tout ça pour conclure que ce lieu, l'abbaye des Dômes, je dirais que voilà, c'est un lieu, je crois, qui est destiné à rayonner comme autrefois, à retrouver son caractère à travers la terre, mais aussi à travers l'accueil, la chaleur du cœur, un lieu où on se sent bien pour y vivre.
Dans un prochain épisode, nous reviendrons sur l'histoire de l'abbaye et ses activités. C'est la fin de cette émission. À vous les Burgiens, prends des vacances. On se retrouve le 14 novembre. Pour retrouver nos podcasts, c'est sur le site www.radio-b.fr, rubrique info et à vous les Burgiens. Merci pour votre écoute et à bientôt.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire pour nous. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre, pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent, comme nous sommes des étrangers, il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.